ouvrir la parole de notre Seigneur, cette parole dont on ne se lasse jamais. On va faire une première lecture dans la première épître de Jean, chapitre 4. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous allons juste un petit peu plus loin dans l'épître de Jude. L'épître de Jude, c'est juste avant le livre de l'Apocalypse. Jude, et il n'y a qu'un chapitre dans ce petit livre, mais ce petit livre est plein de richesses spirituelles. Nous lisons le verset 23, même le verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Depuis quelque temps, nous, le mardi soir, nous faisons une étude sur le fruit de l'esprit et dans la liste que l'apôtre Paul donne dans Galates, au chapitre 5, verset 22, il cite en premier l'amour, la joie, la paix, vous connaissez cette liste. Et cela m'a amené à, cette étude m'a amené à réfléchir un peu plus et à creuser le sujet sur l'amour, on en a parlé un mardi soir. Mais j'aimerais ce matin aller un peu plus loin par rapport à ce sujet, et particulièrement par rapport à un point où on n'est pas toujours à l'aise face à l'amour. De la même manière que dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez qu'on a parlé du fait de juger, de ne pas juger, que là parfois aussi on est mal à l'aise. Et ce matin, j'aimerais aborder ce sujet de l'amour avec aussi son opposé qu'est la haine. Et parfois, nous sommes mal à l'aise parce qu'on se dit « mais je n'aime pas comme il faudrait aimer ». Et on pourrait se culpabiliser que Dieu nous aide dans sa parole à sonder nos cœurs par son esprit, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous dans l'amour et que nous puissions être ainsi libres de pouvoir aimer comme Dieu nous appelle à aimer. La question, on peut se la poser, est-ce que nous pouvons aimer tout le monde ? Chacun pourra répondre pour soi-même. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées », dira le psalmiste. L'autre question qu'on pourrait se poser, afin de nous titiller, je la pose, devons-nous aimer tout le monde ? Devons-nous aimer tout le monde ? Ici, on voit que Jean écrira, dans le premier passage que nous avons lu ensemble, au verset 11, « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Ça, il parle des uns des autres, c'est-à-dire les frères et sœurs entre eux. L'apôtre Paul dira la même chose dans Romains 13, verset 8, où il dira « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Donc on voit que l'apôtre Paul dira la même chose que Jean à ce sujet. Alors, peut-être la question, il faudrait la poser différemment, en disant, est-ce que nous devons nous aimer les uns les autres ? Ça, oui, bien sûr, mais est-ce que nous devons aimer tout le monde de la même manière ? De la même manière. Je pose la question volontairement afin de nous amener à réfléchir. La langue française a ses nuances qui n'existent pas dans d'autres langues et vice-versa, il y a des nuances qui existent dans certaines langues qui n'existent pas en français, et c'est dans le contexte de la phrase, dans le sens de la phrase, que toute la nuance se fait, soit dans le français, soit dans une autre langue. Et pour le même mot, parfois, quand on regarde dans le dictionnaire, il n'y a pas forcément la même signification que le mot dans une autre langue, d'où toute l'importance de savoir, oui, j'ai le dictionnaire avec moi pour m'aider à comprendre, mais ça ne veut pas dire que dans ce contexte-là, ça va vouloir dire exactement pareil. Je vais m'expliquer. En français, on a le verbe « aimer », on a peu de nuances qui existent, il y en a. Mais la nuance va se faire dans tout ce que l'on va rajouter, après le verbe « aimer ». Un peu comme on était enfant, on s'amusait à enlever les pétales d'une marguerite en disant « je t'aime un peu, pas du tout, beaucoup, à la folie, passionnément, etc. » Donc voilà toutes les nuances du verbe « aimer ». Selon l'origine de ce mot, selon la langue, c'est vrai que ce verbe « aimer » peut avoir certaines notions qu'en France, cela peut nous échapper. Par exemple, quand nous prenons l'origine de ce mot et dans la langue arabe, il est associé au verbe vouloir. On retrouve un peu cette idée-là en espagnol, parce qu'on pourrait dire en espagnol « te quiero ». C'est associé aussi au verbe vouloir. Ainsi, la personne qui est aimée, on la veut pour soi. Alors que dans la notion telle qu'on l'entend, nous, l'amour se donne. Ça serait l'inverse. Comprenez ? C'est pas si évident que cela. Selon la langue dans laquelle on s'exprime, d'où l'importance de bien préciser la phrase afin qu'on puisse bien comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il en est de même par rapport au verbe « haïr ». Quand on regarde le mot « haïr » dans un dictionnaire français, j'ai regardé par curiosité, on a comme définition « aversion » pour quelqu'un, pour quelque chose. Une autre définition que l'on trouve aussi dans le dictionnaire, c'est « sentiment violent qui veut du mal à quelqu'un » ou qui se réjouit du mal de celui qui pourrait être notre ennemi. Sauf que, dans la Bible, ce mot « haïr » n'a pas toujours ce sens que l'on trouve dans le dictionnaire français. On va lire juste un exemple dans Luc chapitre 14, verset 25. Luc 14, verset 25, De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son frère, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » On retrouve le verbe « haïr ». Dans certaines versions, il est écrit différemment, traduit différemment, justement parce que là, on a bien compris le sens de ce mot « haïr », que si on se base simplement sur la définition que donne le dictionnaire français pour le verbe « haïr », faudrait-il donc avoir de l'aversion, faudrait-il vouloir faire du mal à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs. Si je me limite à la définition que donne le dictionnaire français, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que dans la globalité de l'enseignement de la parole de Dieu et de l'Évangile, nous voyons que Jésus nous invite à aimer les nôtres, à aimer notre famille. Même l'apôtre Paul dira que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Vous voyez, pourtant Jésus dira, si quelqu'un ne vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère. Donc on voit ici que le mot haïr a un autre sens, ici en l'occurrence c'est en grec, hein, puisque c'est le Nouveau Testament, que ce que veut nous dire le dictionnaire français pour ce terme. C'est pour ça que certaines traductions ont écrit pour ce verbe s'il ne se préfère. Et c'est vrai que nous préférons, nous plaçons en premier notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on peut passer du blanc au noir directement. Et dans certaines langues, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Soit c'est aimer, soit c'est haïr. Nous, on aime bien que ce soit le blanc, le gris très clair, le gris clair, le gris moyen, le gris foncé, le gris presque noir, et puis le noir. Mais dans certaines langues, ces nuances-là n'existent pas forcément. Elles se font dans le contexte dans lequel il est dit. Et il est vrai que on ne peut pas, si on fait passer, j'allais dire, les siens d'abord, et dans le contexte de la persécution, on le comprend bien, suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pas simplement dans le contexte de la persécution. Je me rappelle ce missionnaire qui rendait témoignage de sa famille qui lui a dit « Mais tu ne nous aimes pas !» Tout ça parce que il, en répondant à l'appel du Seigneur, il était parti à l'autre bout du monde. Ainsi, il était appelé à quitter sa famille pour aller dans le lieu où le Seigneur allait l'appeler. Donc, il ne verrait plus sa famille, il ne pourrait plus la côtoyer. Et sa famille percevait ça, enfin, du moins, quelques-uns de sa famille percevaient ça comme le fait qu'il ne les aimait pas. C'était faux. Il aimait sa famille, mais il aimait encore plus son Seigneur, et il était prêt à le suivre. Pour le même terme « haïr », le même verbe « haïr », on voit chez Ésaü, on en reparlera tout à l'heure d'Ésaü, que Ésaü a eu de la haine pour son frère Jacob, et il s'était dit « une fois que mon père sera mort, je tuerai mon frère ». Donc on voit que là, par contre, le verbe « haïr » a tout son sens que l'on trouve dans le dictionnaire français. Donc, c'est important pour nous de préciser ces choses avant d'aller plus loin, parce que il y a vraiment parfois une certaine ambivalence entre l'amour et la haine qui pourrait se trouver dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on haïsse selon la définition qu'on en donne, mais il y a toutes sortes de nuances que l'on trouve. Et j'aime toujours prendre l'exemple sur notre Seigneur parce que c'est l'exemple suprême. En termes d'amour, nous l'avons lu dans notre premier texte, que Dieu est amour. Et si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et il nous rend participants à cet amour. En toute chose, notre Seigneur est notre exemple. Dieu est amour. J'aimerais avec vous lire dans le psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant. et celui qui se plaît à la violence. Ah. Dieu peut-il haïr ? Il est amour. Il hait le méchant. Lisons un autre texte dans Proverbe 3, verset 32. Proverbe 3, juste après les psaumes. Proverbe 3, verset 32. Car l'Éternel a en horreur. Le terme est fort, hein ? Le terme est fort. L'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Allez, encore un dernier peut-être. Dans le Proverbe 6, verset 16, il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Et là, les choses vont être citées. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, etc., etc. Vous voyez, Dieu est amour. Et nous sommes convaincus que Dieu est amour, n'est-ce pas ? Alléluia ! Il nous aime, mais on voit qu'il est le méchant, qu'il a en horreur l'homme pervers. Et pourtant, nous savons, c'est bien écrit dans la parole de Dieu, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, à tel point son amour est tellement fort pour chacun d'entre nous, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mais quel amour démesuré ! Quel amour démesuré ! Et il ne nous a pas aimés en fonction du bien qu'on aurait pu faire. Non, nous étions encore son ennemi. Il a prouvé son amour envers nous dans le fait que Christ est mort pour mes péchés. Et si on va jusqu'à la mort pour quelqu'un, c'est indéniable. Ça veut dire, et ça prouve l'amour qu'on a pour quelqu'un. Ça prouve l'amour. On voit donc cette ambivalence qui est là, et nous lisions ce texte. C'était mardi soir, lorsqu'on parlait du fruit de l'esprit qui est la bienveillance, on lisait ce texte mardi soir. Il est vrai, je vais juste le reciter comme ça dans Ézéchiel 18-23, ce que Dieu désire, c'est pas que le méchant meure, c'est pas que les méchants meurent, mais c'est que le méchant se repente, qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ça que Dieu souhaite pour le méchant. Mais nous savons que Dieu ne nous appelle pas à vouloir du mal de quelqu'un, il ne nous appelle pas à nous réjouir du mal de quelqu'un, ça serait de la haine comme Ésaü a eu vis-à-vis de son frère, et nous lisons d'ailleurs dans le Proverbe 24, verset 17, Proverbe 24, verset 17, Proverbe 24, verset 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ça ne plaît pas à Dieu. Voilà, donc on voit que Dieu ne nous appelle pas à haïr de cette manière, à haïr de cette manière, parce que Dieu ne veut pas cette haine. Dieu est amour, Dieu est amour. Mais il est évident qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des pratiques qu'on n'accepte pas. Il y a des choses que nous haïssons, mais nous désirons, bien sûr, le salut de toute personne. Nous désirons, bien sûr, que toute personne puisse parvenir à la repentance. J'aimerais aller un peu plus loin. On va toujours garder cet exemple de notre Seigneur et on va aller dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 11. Romains chapitre 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui l'appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Ah, Dieu a aimé Jacob et Dieu a aimé Ésaü. En raison de quoi ? Il est même dit qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère, dans le ventre de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils n'étaient pas encore nés. On peut aimer quelqu'un en raison de ce qu'il fait ou ne pas aimer quelqu'un en raison de ce qu'il ne fait, de ce qu'il fait parce que ce qu'il fait ne nous plaît pas. Ce qu'il fait est abominable. Mais là, l'un et l'autre, Ésaü, n'avait fait ni bien ni mal, et pourtant il est écrit que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Alors quoi? Que faut-il entendre dans tout cela si l'on prend la définition que nous donne le dictionnaire pour le verbe aimer et le verbe haïr, si on enlève, on se contente de cette définition sans considérer la globalité de tout ce que Dieu veut faire, le plan de Dieu. Et là, bien sûr, c'était le plan de Dieu pour non seulement le peuple d'Israël, mais bien plus large que cela. Bien sûr, là, on peut comprendre pourquoi il est écrit que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Si j'ai deux personnes à côté de moi et que je donne à une personne 10 euros et que je donne à l'autre personne 10 000 euros, sans que ces personnes n'aient fait ni bien ni mal. Vous allez me dire, mais laquelle personne que je préfère? Il est évident que la personne que je préfère va être la personne à qui je donnais 10 000 euros. Derrière tout cela, bien sûr, il y avait le choix de Dieu. Dieu est souverain dans ce choix. Et puis, il y avait le plan de Dieu, eh bien, qui devait s'accomplir pour Jacob. Il est question aussi de bénédiction. Il est vrai que Jacob a eu de grandes bénédictions, non seulement terrestres, mais il y avait une bénédiction spirituelle attachée à la personne de Jacob. Ésaü a eu des bénédictions, puisqu'il dira même à son frère, lorsque son frère va revenir en Canaan, eh bien, qu'il est dans l'abondance. Donc on voit que Ésaü a eu aussi son lot de bénédictions, mais comparé à toutes les bénédictions qu'a eu Jacob, c'était rien. Surtout qu'il n'y avait pas ces bénédictions spirituelles que Jacob a pu bénéficier et qui a aussi été en bénédiction pour toutes les nations, car l'on sait bien que le Messie est la descendance de Jacob et pas d'Ésaü. Alors comprenons bien que, là encore, Dieu nous appelle à bien considérer ce à quoi il nous appelle. Faire des préférences n'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. On n'aime pas ce mot préférence. Mais moi, je le dis. On peut faire des préférences quand cela vient d'un cœur qui est pur. Je m'explique, dans Jacques chapitre 2, on a vu ce texte aussi lorsqu'on a fait non seulement notre étude sur l'épître de Jacques, mais aussi lorsqu'on a parlé du fruit de l'esprit. Jacques s'en prend à quelques-uns qui font du favoritisme, on pourrait dire du préférence. Mais cette préférence-là, elle est basée sur quoi? Quand on lit Jacques chapitre 2, elle est basée sur l'amour de l'argent, sur la gloire humaine. Et quand on fait des préférences sur la gloire humaine, sur l'amour de l'argent et sur des choses qui ne sont pas bonnes, oui, là c'est un péché. Là c'est un péché. Mais quand c'est dépourvu de toute mauvaise motivation, il est normal d'avoir des affinités. Il est normal d'avoir des affinités. Il est normal d'avoir des préférences. On a des atomes plus crochus, comme on dit, avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on haïsse les autres, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que voilà, on est aussi à l'image de notre Dieu. Ah, n'est-il pas écrit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare? Est-ce que ça voulait dire qu'il n'aimait pas les autres? Bien sûr qu'il les aimait. N'est-il pas dit de Jean que c'était le disciple que Jésus aimait? Les affinités. Vous voyez, ça c'est encore une nuance de l'amour. Et c'est normal. Amen. L'apôtre Paul dira, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mais cela doit se faire sans haine. Peut-être que le méchant, lorsque il est expulsé, j'allais dire, de l'Église. Lui, il perçoit comme un manque d'amour. Mais lorsqu'on exerce ainsi la discipline, c'est pas forcément de la haine, et ça doit être motivé par l'amour, parce que nous savons que la discipline envers quelqu'un peut aussi faire ramener cette personne à son bon sens. Il dit ça parce que les Corinthiens étaient indifférents face à une situation qui était là dans l'Église et qui était abominable, intolérable. Et parfois, sous couvert d'amour, on tolère des choses qu'on ne devrait pas. Et ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Et c'est même pas tellement de l'amour. En fin de compte, même, je veux dire, c'est manquer d'amour vis-à-vis de l'Église que de laisser faire ces choses-là. Parce que l'amour nous appelle aussi à exercer la discipline, mais aussi à protéger. Jean, le même Jean, qui parle autant d'amour dans ses épîtres, ainsi que dans son évangile, le même Jean nous parle d'un homme, Diotrephe, qui se comportait comme un gourou dans l'Église. Et il dira, si je veux, je vais rapporter, je vais dire ce qu'il fait, les mauvaises actions qu'il fait. On voit que Jean, là, il est sévère. C'est pas un manque d'amour. C'est pas un manque d'amour. Jude, nous avons lu tout à l'heure ce texte dans Jude, verset 23, où Jude écrira que pour d'autres, il nous faut avoir une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il parle de pitié. La pitié est une des facettes de l'amour. On pourrait parler de compassion. Pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre que Jude s'adresse à des personnes qui sont d'origine juive, qui comprennent bien cette expression « haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair ». Et c'est vrai que nous, on pourrait s'imaginer, voilà, un vêtement qui est vraiment très sale, bon, ça nous répugne, qui sent mauvais, etc. Ça, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Dans la loi de Moïse, quand un vêtement avait touché du sang, quand un vêtement avait touché une bête morte. Il ne fallait pas y toucher. Hein. Et qu'est-ce que veut nous dire Jude? Pour certaines personnes, je vais lui dire qu'on ne peut avoir plus que cet amour-pitié, mais on ne peut plus avoir contact avec eux. Ça veut dire ça. Pitié mêlée de crainte, donc on se protège. Parce qu'on sait que ces personnes-là sont dangereuses. On sait que ces personnes-là sont de mauvaises influences et on s'en éloigne. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça ne veut pas dire ça. L'apôtre Paul nous dit aussi quelque part les mêmes choses que Jude dans certaines situations et il parle de nous éloigner aussi de certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'il le faut les aimer, mais pour certaines personnes, on ne peut que prendre ces distances. Leur tourne, je vois, j'ai encore plusieurs choses à dire. Des fois, l'amour n'est plus possible. Je vais préciser mon propos, hein, bien sûr. Parce que nous sommes appelés à aimer même nos ennemis. Même cela. Et c'est pour ça que c'est le fruit de l'esprit, parce que c'est pas possible d'aimer ses ennemis. Mais l'œuvre du Saint-Esprit se fait en nous et il nous rend capables. Mais parfois, l'amour n'est plus possible dans le sens d'amour tel qu'on pourrait le concevoir. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre, afin d'enlever toute ambiguïté. Je vais prendre l'exemple d'Abigaïl et de Nabal. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, j'en parlais récemment, lorsqu'on a parlé du fruit de l'Esprit, je parlais de la bonté de David vis-à-vis de Nabal, qui a répondu méchamment aux serviteurs de David. Et maintenant, j'aimerais parler de cette femme d'Abigaïl, la femme de Nabal. On va lire dans le premier livre de Samuel, chapitre 25, premier livre de Samuel, chapitre 25, verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaïl vit dans un foyer terrible. Son mari est méchant, mais alors vraiment méchant. À tel point que ses serviteurs, c'est la terreur de tout le foyer, ses serviteurs n'osent même pas lui parler tellement qu'il est méchant. Et on voit que non seulement il était méchant, cet homme, mais il avait une fâcheuse tendance à la bouteille, parce que si on avait continué notre lecture, on voit qu'il est dans l'ivresse, et bon, certainement aussi, qu'il a un penchant bien prononcé pour l'alcool. On peut s'imaginer, l'enfer que vit cette femme. Vivre avec un homme violent, vivre avec un homme méchant, vivre avec un homme qui est alcoolique. Comment dire à une telle femme, aime ton mari? Je vous pose la question. Pas facile, hein? Et cette femme de se culpabiliser, disant, mais je n'arrive pas ou je n'arrive plus à aimer mon mari comme le jour où je me suis mariée avec lui. On peut le comprendre. J'ai connu des cas. J'ai connu un cas comme ça, une sœur en Christ, qui nous appelle un jour en urgence et nous sommes allés la voir avec mon épouse. Les instituteurs, son mari était violent, méchant, tapé, il tapait tout le monde, son épouse et les enfants. Et les instituteurs à l'école avaient fait remonter à sa mère, mais on a vu des coups sur les enfants. Il faut que vous réagissiez. Donc elle m'avait fait appel et donc nous avons parlé avec cette sœur en Christ. Je lui ai dit, mais si vous ne faites rien, les services sociaux, si les instituteurs font un signalement, vous risquez de ne plus avoir vos enfants parce que vous aurez laissé faire ça. Pas facile, dans certaines situations. On peut comprendre que cette sœur en Christ, eh bien, avait du mal. Et on peut comprendre que dans certaines situations, certaines personnes ne sont plus en mesure d'aimer. Et là, il est question de l'amour conjugal. C'est pour ça que je parlais de toutes les nuances de l'amour. Il y a plusieurs façons d'aimer, hein. Et là, en l'occurrence, c'est l'amour conjugal. Et Abigaïl ne pouvant plus aimer d'un amour conjugal, qu'est-ce qui lui reste si ce n'est que l'amour-compassion? L'amour-compassion. Une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Et oui, dans certaines situation par rapport au contexte dans lequel certaines personnes, nous ne pouvons pas les culpabiliser en disant « mais il faut que tu continues à aimer ». Oui, mais de quel amour? Et là, je parle de l'amour-compassion, parce que cette femme ne pouvait aimer son mari que de cette façon-là. Et ça, je dis, c'est fort. Et là, je dis bravo, parce que pour continuer à aimer, même si c'est l'amour-compassion, ça ne peut venir que du Saint-Esprit qui travaille notre cœur pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ qui aime de cet amour-compassion même les êtres les plus dépravés, même les êtres les plus méchants, même ceux qui sont au fin fond et qui croupissent dans des prisons parce qu'ils ont fait des choses horribles, c'est aussi pour eux que Jésus-Christ est monté sur la croix. Que le Seigneur nous aide, les uns les autres, afin que nous puissions en tout temps voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a des situations vraiment où nous ne pouvons nous en remettre qu'au Seigneur parce que c'est au-delà de nos forces et qu'il nous aide vraiment à pouvoir continuer à aimer même ceux qui nous font du mal, que nous puissions peut-être prendre nos distances, mais prendre ces distances ne veut pas dire cesser d'aimer, mais c'est simplement que pour certaines personnes, il nous faut nous protéger sans aucune animosité en priant pour qu'ils changent. Car ce que nous désirons, c'est comme ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite, qu'il se repente et qu'il vive. Que Dieu fasse son œuvre et qu'il sonde nos cœurs, sonde moi, ô Dieu, et connaît mon cœur. Oui, Seigneur, nous voulons que ta parole, cette parole qui est comme une épée, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et elle pénètre au plus profond de notre cœur jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Oui, le Seigneur, par sa parole, révèle les pensées de nos cœurs afin que nous puissions savoir où nous en sommes et pouvoir continuer à lui ressembler en tout point. Et nous comprenons pourquoi Jean dira, eh bien, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Te bénissons, Seigneur, pour ton esprit. Nous voulons, en effet, Seigneur, te ressembler en toutes choses. Nous voulons, Seigneur, en effet, Seigneur, te demander toute l'aide du Saint-Esprit pour continuer à aimer ce qui n'est plus aimable, Seigneur. Continuer à aimer dans des situations difficiles. Et Seigneur, que cet amour soit éclairé par cette sagesse qui vient du Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, savoir comment il faut aimer. À toi soit donc toute la gloire, Père Céleste. Tu aides nos frères et sœurs qui sont dans ces situations pénibles, dans ces situations difficiles. Donne-leur cette sagesse, donne-leur cet amour, donne-leur cette force qui vient du Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.